Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques, en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Vous êtes sur les ondes de CHIZ. Donc, lors du dernier épisode, j'ai été accompagnée de Jérémy. Puis ensemble, on a discuté du discours de la crise de la masculinité. Je vous invite donc à aller écouter cet épisode dès que vous avez le moment pour en apprendre vraiment plus sur cet enjeu de la société qui se présente en ce moment dans la société. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Chloé et de Annie qui vont nous dire concrètement à quoi ça sert le BIAPRI. C'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est étudiant au BIAPRI. Donc, bienvenue Chloé et Annie, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Donc, avant que vous nous répondiez c'est quoi qu'on peut faire au BIAPRI, à quoi ça sert, j'aimerais ça juste que vous présentiez, vous êtes qui, pourquoi vous venez au podcast aujourd'hui?
Ouais, ben je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Chloé Tourigny, je suis étudiante au BIAPRI en deuxième année. Je suis aussi la vice-présidente aux affaires exécutives et pédagogiques sortante. Dans le fond, je finis bientôt mon mandat. C'est un nom assez flou, là, mais dans le fond, c'est moi qui s'occupe de répondre à toutes les questions d'ordre pédagogique des étudiants, de siéger au comité de programme. On fait des révisions, des cours, du cheminement. On discute de comment améliorer le programme. De là, un peu est venue l'idée de ce podcast-là parce que en étant la ressource première, souvent les étudiants viennent avec moi avec leurs enjeux par rapport au BIAPRI, dans le fond, à sa structure et à quoi faire après.
Bien, bonjour, moi c'est Annie Rémillard, je suis conseillère en emploi au service du développement professionnel. Je suis attitrée au programme de la Faculté des sciences sociales depuis maintenant plusieurs années, donc notamment le bac intégré en affaires publiques, relations internationales. À travers mon rôle, moi, mon but, mon souhait, en fait, le plus profond, c'est donner le goût aux gens de s'intéresser à leur développement professionnel puis à découvrir leurs possibilités. Fait que concrètement, au quotidien, ce que je fais, c'est que j'accompagne des étudiants, mais aussi des diplômés dans toutes les étapes, là, les différentes étapes de leur réflexion, étapes d'exploration, mais aussi de mise en action là, de leur projet professionnel.
Donc, je voulais poser tantôt, mais qu'est-ce qui vous a motivé à venir au balado aujourd'hui? Je sais qu'il y a un peu vos rôles, mais je suis sûre qu'il y a des situations qui vont faire en sorte que vous êtes dit « OK, go, on y va ».
Oui, bien c'est ça, comme j'en parlais, c'est venu de mon initiative surtout, puis de la rétroaction que j'ai reçue des étudiants. C'est sûr qu'au sein du BIAPRI, c'est connu. C'est un bac, souvent on dit aux gens, j'ai dit au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, première question qu'on se fait poser, c'est quoi ça? Puis après ça, tu dis, c'est un bac pluridisciplinaire en droit, en sciences politiques, en économie. Les gens sont genre, OK, tu veux faire quoi avec ça? Plus souvent, les BIAPRIS, cette question-là, on bloque. Là. On est souvent des gens qui ont choisi ce bac-là justement pour toutes les opportunités que ça offrait. On ne voulait pas se fermer de porte. Des fois, ça devient un peu insécurisant, par exemple. Puis c'est ce que j'ai remarqué dans un sondage que j'ai lancé récemment à la population étudiante. Puis de là, mon initiative de faire ce balado pour répondre un peu aux questionnements qui ont été soulevés, aux préoccupations. Donc, je suis allée voir Annie avec ça parce que je me suis dit qu'elle pourrait, ensemble, on pourrait discuter un peu d'un projet qui viendrait amener de la clarté à ce flou-là.
Bien, tout à fait. Puis moi, je tiens d'abord à dire que j'ai été vraiment touchée par le fait que Chloé ait pris l'initiative de venir me rencontrer. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis lors de nos échanges, bien, je trouvais que ses réflexions, ses constats mettaient en lumière vraiment des questionnements. Puis ces questionnements-là pouvaient générer chez les étudiants différentes émotions, ça peut être la confusion, de l'incertitude, de l'inconnu ou encore même de la pression de devoir justifier ou démystifier mon programme, tu sais, son programme d'études. Fait que toutes les deux, on était portées par vraiment un désir de comment on peut soutenir les étudiants dans ces questionnements-là. Puis c'est là que l'idée du balado est venue. Puis le but concret de ce balado-là aujourd'hui, c'est lancer la discussion, en fait, puis partager différentes pistes là, qui pourraient apporter de la clarté sur des aspects qui peuvent être encore flous là, pour les étudiants et étudiantes.
Tu parles de flou. On l'a dit, le bac, c'est sûr que ça l'amène un certain flou parce que c'est pluridisciplinaire. Ma question avec ça, c'est après le bac, quand on s'en va, après ou pendant, là, quand on s'en va vers un employeur, comment le flou est perçu par les employeurs?
C'est une bonne question, en fait, comment les employeurs perçoivent votre programme. Bien, moi, je dirais que lorsque les employeurs ont la chance de vous connaître, de vous découvrir dans l'action, là, leur perception est positive. Puis, sur quoi je me base pour vous dire ça? Bien, c'est la lecture de différents suivis de stages, d'intégration de stages que j'ai lus. Puis, dans ce suivi d'intégration-là, on leur pose justement la question, selon vous, est-ce que la formation prépare bien l'étudiant à réaliser le mandat chez vous? Et la question est oui. Puis, j'ajouterais une chose aussi, il ne faut pas perdre de vue, il faut prendre en considération aussi que le programme existe maintenant depuis longtemps. Donc, on va avec le fait qu'il y a plusieurs déjà diplômés qui sont sur le marché du travail puis qui ont réussi à se faire une place sur le marché du travail, qui sont reconnus. Donc, dans un autre sens aussi, on parlait de titre, le titre du programme. C'est sûr que lorsqu'on exprime le titre Bac intégré en affaires publiques Relations internationales, les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas diplômés dans ce programme-là, les employeurs, ça peut susciter encore là un flou, des questionnements. Donc là, dans ce contexte-là, ben, je pense que c'est le temps de saisir comment je peux aider l'employeur à découvrir ce qui se cache derrière ce titre de programme-là.
Quand tu dis multidisciplinarité, c'est quand même bien vu par les employeurs. Est-ce que selon toi, la spécialisation est quand même nécessaire?
En fait, moi, je dirais une très bonne façon d'aller valider cette information-là, ça pourrait être d'aller consulter des offres d'emploi qui sont offertes vraiment dans les secteurs qui vous interpellent. Ça peut être aussi de saisir l'occasion de rencontrer des diplômés. Pour ma part, ma connaissance du marché du travail actuel bien, m'amène à vous dire que oui, cette multidisciplinarité-là est définitivement un atout. Puis je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, bien, j'ai participé à une activité réseautage qui est organisée par le comité ambassadeur du BIAPRIX, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des professionnels avec un parcours et des études multidisciplinaires. Puis même dans leur discours, puis eux provenaient du secteur relations internationales, un peu selon vos intérêts. Puis eux, vraiment dans leur discours, mettait de l'avant cette multidisciplinarité-là. Fait que je pense que c'est juste de voir comment vous souhaitez promouvoir cette multidisciplinarité-là.
Je pense que c'est ça, comme tu dis, Annie, c'est... Clairement, la multidisciplinarité, c'est bon, puis ça peut être un atout, mais je pense que c'est surtout comment nous, on peut mettre de l'avant cette multidisciplinarité-là, puis comment on peut éclaircir le flou pour les employeurs. Fait qu'il faudrait un peu retourner la question de comment les employeurs perçoivent le programme à comment moi, je suis capable de leur faire percevoir mon programme.
Justement, comment on met en valeur notre programme devant notre employeur? Est-ce que c'est avec un diplôme? Salut, j'ai ça de spécialisé, mais j'ai aussi le multidisciplinarité, c'est pas facile à dire. Ou il y a d'autres manières de le faire?
Bien, moi, je pense qu'une bonne façon de le mettre en valeur, c'est d'abord dans votre CV. C'est de développer des astuces, comment je peux mettre cette multidisciplinarité-là en valeur dans mon CV. Puis je peux vous donner des exemples. T'sais, on peut juste commencer à prendre votre section études là, ou formation, là, dépendamment comment vous l'écrivez dans votre CV. Mais il peut être intéressant, en dessous de votre diplôme, de venir nommer les trois programmes d'études, donc droit, sciences politiques et économie. L'autre chose aussi, pourquoi pas nommer des titres de cours dans votre CV? L'employeur, il ne faut pas prendre pour acquis qu'il sait quel cours que vous avez fait. Le programme est constitué de quel type de cours. Fait que, par exemple, si vous posez votre candidature ou vous voulez offrir votre CV à un employeur qui pourrait vous offrir un mandat en recherche, par exemple, bien, pourquoi pas saisir la chance de faire ressortir des cours comme structuration de la recherche, vos cours de méthodologie, vous en avez plusieurs. D'un autre côté, si le mandat touche les relations internationales ou la sécurité internationale, bien, vous avez des cours comme relations économiques internationales, sécurité internationale. Puis là, je vais en dire un troisième, l'axe plus communication. Bien, certains ont suivi des cours, les cours de communication et médiation politique, marketing et stratégie et politique appliquée. Fait que ça, c'est comme des exemples. Pourquoi pas mettre en valeur votre parcours là, académique?
Puis tu parles de cours, mais je discutais hier avec une collègue de notre association étudiante, Léonie Blackburn, qui est notre présidente. Présentement, elle est en troisième année, elle est en train de faire le projet d'intégration. Puis c'est un gros projet, c'est un gros travail de recherche. Puis ils ont reçu la rétroaction des enseignants. Et la rétroaction, c'était vous pourriez carrément publier ce projet-là. Si, que ça soit un projet qui est publié dans une revue académique ou pas, je pense que ça peut être pertinent, même si ce n'est pas directement un cours, mais qu'est-ce que j'ai fait dans mon cours qui m'a donné des acquis, des connaissances dans un domaine pertinent à l'emploi. Si, par exemple, moi, je pense à dans un des premiers cours du BIAPRIX Institution internationale, j'ai fait un gros travail sur l'OTAN puis l'adhésion de la Suède puis la Finlande. Ça me donne une expertise sur l'OTAN avec la recherche que j'ai faite à travers ça, parce que souvent, c'est ça, les cours de sciences politiques, c'est de la recherche qu'on fait au sein du cours. Oui. Puis je pense que ça peut être bon de mettre ça de l'avant. C'est un peu une spécificité où il faut vraiment détailler ce qu'on fait, mais une fois que c'est fait, on est capable de convaincre les employeurs.
Oui, puis même vous, en faisant cet exercice-là, vous mettez en valeur, vous reconnaissez ce que vous avez acquis, vous lui donnez de l'importance. Puis ces travaux d'équipe-là, on pourrait même les mettre dans la section « expérience pertinente okay. ». On n'est pas obligé de créer une autre section nécessairement, là. Fait que ça, c'est comme des petits trucs, puis si, pour avoir d'autres idées, là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est un des services que je vous offre, de réviser CV, vous aider à rédiger votre lettre de présentation également. Fait que là, on a parlé du CV, mais je pense aussi que c'est important de vous préparer aussi à en parler en entrevue, que ce soit dans des activités réseautage ou dans des parties de famille, quand on vous pose la question, vous allez faire quoi avec ça?
Parler de notre programme, moi, je suis curieuse de le savoir. Ben Annie, tu peux peut-être nous donner des trucs aussi, mais comment t'en as parlé, toi, à tes parents, de ton programme? Comment t'en parles, puis tu le présentes à ta famille ou tes amis? Je sais que c'est pas facile, mais moi-même, je le vis encore à ma deuxième année.
La question qui tue. Mais, ouais, ben dans le fond, si je peux donner une anecdote, moi, j'ai fait deux portes ouvertes à date dans le cadre de mon mandat de VP aux affaires pédagogiques. Puis, je crois que la rétroaction, parce que souvent, aux portes ouvertes, on a affaire à des parents un peu dubitatifs qui ils voient leur enfant aller faire ça. Leur première question qu'ils posent, c'est « OK, mais ils peuvent faire quoi avec ça, genre? » Puis, il faut vraiment convaincre les parents, je pense, d'abord, pour qu'ensuite les étudiants et étudiantes aient la confiance d'appliquer au programme. Mais je pense la première affaire qui est importante, c'est d'être convaincu soi-même que ton programme a de la valeur puis que tu peux faire quelque chose avec ça. Parce que moi, je sais que j'en suis convaincue puis c'est un peu ma passion, mon programme. Je pense que ça apparaît quand j'en parle. Puis j'ai dû un peu me dire avant les portes ouvertes que j'allais parler du programme. Puis c'est en vérifiant tout ça, tout ce qu'on peut faire au programme, que j'ai réalisé que on peut en faire beaucoup. Puis mettons, je parlais surtout des implications qu'on peut faire. Il y en a plusieurs, puis du fait qu'on a les trois disciplines, exactement, ça nous amène une lunette de plus dans toutes les... Mettons, je dis, on peut participer au jeu de la science politique. Ouais. Oui, les étudiants et étudiantes en sciences politiques peuvent aussi participer à ces jeux-là, évidemment, puis même d'autres, des étudiants et étudiantes en droit, peu importe. Mais je pense à mon expérience personnelle. J'ai participé au jeu de la science politique, puis j'étais dans l'épreuve de négociation. Puis la trame factuelle, si on veut, de la simulation, c'était un développement sur la Côte-Nord. Puis j'étais la partie du gouvernement du Québec. Puis il fallait un peu trouver des arguments pour développer une zone innovante sur la Côte-Nord. Puis moi, je venais d'avoir, cette session-là, un cours sur l'économie du Québec puis sur le développement régional, puis les zones innovantes, pas nécessairement les zones innovantes, mais les avantages comparatifs du Québec, etc. Donc, c'était super pertinent. Puis mon collègue qui était en sciences politiques, super bon orateur et tout, on avait chacun nos forces et nos faiblesses, mais j'ai pu amener un peu cette perspective-là économique que mon collègue a pas pu. Puis ça, c'est quelque chose que, justement, j'ai partagé aux portes ouvertes. Puis aussi, je pense une autre force de notre bac que j'ai été capable de divulguer, c'est les liens qu'on est capable de faire entre les cours puis entre les disciplines. J'en ai parlé un peu au sein des jeux de la science politique, mais par exemple, à notre première session, on fait un cours d'institution internationale, puis la session suivante, on fait un cours de droit international public général, puis on voit vraiment les liens entre les institutions qu'on a vues en ESTI, de son petit nom au sein du Biafri, puis ensuite en droit international public général, puis on voit un peu que pour les étudiants en droit, étudiants et étudiantes en droit, parfois c'est pas une des connaissances acquises, puis il faut revenir là-dessus, mais pour nous, c'est clair l'aspect politique, puis ensuite on vient ajouter l'élément de droit, comme par exemple, il y a un peu une définition différente d'un traité sous une perspective d'un politologue puis sous une perspective d'un juriste. Donc, c'est intéressant de voir ces différentes visions-là puis de les comparer puis d'être capable d'avoir toutes ces perspectives, toutes ces lentilles-là, c'est de voir le monde des relations internationales, des affaires publiques de manière différente. Puis, je pense que c'est vraiment ça que j'étais capable de mettre l'avant au sein de mon programme. Puis, je pense que c'est une espèce de spiel que je pourrais avoir devant un employeur aussi pour dire ben je suis capable d'analyser des situations sous différents angles. C'est vraiment une des forces de notre programme. Puis une fois que tu en es convaincu toi-même, tu peux convaincre les autres.
Ouais, je comprends vraiment ce que tu dis. Là. Moi, ça me fait penser, j'ai un cours en ce moment, relations économiques Canada-États-Unis, puis j'ai un cours de droit international économique. Puis souvent, je suis capable de faire des liens. Là. Parce que dans mon cours de relations économiques, il y a de la politique là-dedans. C'est principalement économique, mais après ça, j'arrive en droit. Puis, je connais déjà la matière. C'est juste que là, je comprends tous les termes juridiques qui s'appliquent, puis ça va encore plus en profondeur que si j'avais juste fait mon cours d'économie. Tu sais, tu parles de mettre l'avant le programme dans tes cours, mais je pense aussi, on en a beaucoup présenté au balado dans nos derniers épisodes, mais une manière aussi de mettre le programme de l'avant, je pense, c'est aussi les implications. Là, tu as parlé des jeux de la science politique, mais tu sais, il y a des simulations qui nous permettent d'observer puis d'apprendre sur le processus plus diplomatique. Donc, je pense aussi que les implications, ça vient jouer beaucoup dans comment on met le programme notre programme de l'avant. Là.
Ouais.
Ah, définitivement, là, vraiment. Puis c'est reconnu par les employeurs, autant à travers votre CV. Vous parlez des jeux de la science politique. Là. Ça aussi, c'est un autre élément que je mettrais dans l'expérience pertinente dans le CV. Puis l'idée de s'impliquer, de choisir de vivre des expériences pratiques, ça vous permet aussi peut-être même de découvrir des secteurs auxquels vous n'avez pas pensé, de vous découvrir des forces que vous ne pensiez pas que vous aviez, puis même encore là, l'occasion de renforcer là, des compétences qui sont vraiment recherchées sur le marché du travail. Moi, qui regarde souvent les offres d'emploi, moi, je vous le dis, là, les employeurs recherchent beaucoup des compétences, notamment en gestion de projet, en communication. Le fait de s'impliquer, ça peut vous permettre de renforcer vos habiletés rédactionnelles, votre capacité à créer puis maintenir des liens avec les gens. Ça, vous allez voir ça souvent là, dans les offres d'emploi là, dans votre domaine. Donc, vraiment, je peux vous confirmer que c'est ça, les employeurs recherchent ça en plus des connaissances que vous allez avoir acquis là, durant votre programme. J'aimerais ça vous entendre sur d'autres exemples. Là, vous avez parlé des jeux de la science politique.
J'aimerais ça parler des implications, mais avant, je veux juste revenir sur... toi, comment tu nous suggères de parler de notre programme? Parce que j'ai parlé dans nos cours et tout, dans les implications, mais toi, comment tu vois ça, qu'on parle de notre programme, ou comment on devrait présenter notre programme, là, comme ça?
Oui. Ben, écoute, d'abord, je trouve ça intéressant de vous entendre, parce que je pense que vous avez fait aussi une rétrospection un peu. T'sais, vous prenez le temps de vous arrêter puis de vous poser la question « qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? » Ouais. Fait que prendre le temps de s'arrêter, identifier quel cours qui me fait vibrer, quel cours qui me font moins vibrer, quel sens que je donne à mes cours, puis qu'est-ce que j'en... C'est ça, qu'est-ce que j'ai le goût d'investir encore plus, tu sais, les lectures là, que je dévorerais, là, ben ça, c'est peut-être un signe que vous avez plus un intérêt porté vers ça. Fait que ça va vous aider aussi à être capable d'identifier de quoi je veux parler dans mon programme, tu sais, de qu'est-ce que je veux mettre de l'avant. Puis l'autre chose aussi, c'est que de garder en tête, il y a l'aspect de votre programme, mais votre programme vous donne aussi la latitude de vous impliquer, de vous engager. Fait que c'est à vous de saisir ces occasions-là. Puis quand vous les saisissez, aussi de prendre un temps de dire, ben hey, moi, mon engagement, j'ai retiré quoi? J'ai développé quoi comme compétence? Puis d'avoir la confiance que l'employeur va être intéressé à vous entendre sur autant sur le plan des connaissances, mais autant sur le plan de l'implication.
Oui, puis je pense que c'est bon que tu dises, Annie, parce que des fois, on est tellement englobé dans notre programme, puis est-ce que j'ai fait le bon choix de programme? Mais tu sais, un bac, c'est pas tout. Puis je pense, puis plus tard dans une carrière professionnelle, on va bien réaliser que tu sais, il y a des gens qui aujourd'hui travaillent dans ce domaine-là, ils ont fait des études en peu importe, là, en sociologie, ou bien sociologie, même ça aurait rapport, là, mais en tout cas, ça pour dire que la vie, tu pars de quelque part, puis ça t'amène partout ailleurs, mais c'est ce qui est vraiment important, outre le programme, c'est de, comme tu dis, de développer ses propres compétences. Ça se fait à travers les implications notamment, puis c'est ça pour y revenir. Il y a plusieurs implications au sein de l'université elle-même, puis des cours, puis il y en a aussi à l'extérieur, puis Annie, je vais te laisser parler des opportunités plus à l'extérieur de l'université, mais c'est ça, je parlais des jeux de la science politique, il y a aussi les missions commerciales que des fois, on n'y pense pas trop, c'est pas trop relié à une de nos trois disciplines, c'est plus c'est la faculté de les sciences d'administration, dans le fond, qui organise ça, puis pour ceux qui nous écouteraient, qui seraient peut-être pas familiers avec les missions commerciales, mais c'est sur un an, chaque étudiant et étudiante organise une mission commerciale, se trouve un mandat pour aller représenter à l'international pendant 3 semaines à la fin de l'année. Mais tu disais, tu sais, les employeurs recherchent les compétences en gestion de projet, en communication, peu importe. Ça, c'est vraiment, tu fais des cold calls, puis tu sors de ta zone de confort, puis c'est des compétences qui ensuite tu es capable de mettre l'avant, puis tu vas chercher un autre aspect qui n'est pas juste les trois disciplines qu'on a. Donc, encore, le multidisciplinaire, là, on en cherche. on en veut toujours plus. Sinon, on y pense un peu moins aussi parce qu'on n'est pas peut-être au étudiant au baccalauréat en droit en tant que tel, mais il y a aussi des concours de plaidoirie de droit auxquels on peut participer, dont notamment le concours Jean Pictet, si je ne me trompe pas le nom. Récemment, il y a une étudiante du Biapri qui a participé puis que ça a super bien été son équipe. Mais ça se passe, je pense, en Belgique ou en France.
J'allais dire en Europe, là, mais ouais. Je pense que oui, c'était en Belgique ou quelque chose comme ça. Wow.
Quelque part en Europe, assurément. Mais peut-être que ça change d'endroit chaque année, mais c'est vraiment... C'est sur un concours de plaidoirie en droit international humanitaire, si je ne me trompe pas. Puis c'est vraiment, on développe ses compétences justement de plaidoirie. Puis ça, même en n'étant pas au baccalauréat en droit, on y a accès. Sinon, Caro t'en parlait, les simulations diplomatiques, il y en a plein. Il y a l'OTAN que moi j'ai faite. Il y a l'ONU. L'ONU au sein de l'ASNUL, qu'on appelle, qui est l'Association des Nations Unies de l'Université Laval, qui va directement... au siège social des Nations Unies, puis vraiment, on développe ses capacités oratoires, puis ça se met ça, dans un CV crime pendant toute une année. J'avais des rencontres à chaque semaine parce que j'apprenais à faire des speeches sur le fly. Excusez-moi, je vais vraiment dans les anglicismes, mais tu sais, moi, de mon expérience à l'OTAN, nos soirées où est-ce qu'on se rencontrait, c'était comme, OK, vous avez 5 minutes pour écrire un speech d'une minute sur tel sujet, let's go. Puis on parlait devant des gens, c'est vraiment formateur comme expérience. Puis là, bien sûr, les associations étudiantes, moi et Caro, on en est familières. Des fois, c'est un peu méconnu, les associations étudiantes, je dirais, de qu'est-ce que ça fait. Puis on a l'impression, bon, c'est des gens, je sais pas, ils organisent des parties, puis c'est tout. Mais c'est vraiment pas. Puis si on a une expérience un peu de justement, des rencontres professionnelles, si je peux dire, de, tu sais, à chaque semaine, on a ce qu'on appelle notre CX, notre rencontre du comité exécutif. On a cette rencontre-là suivant un réel protocole de temps de parole, puis on apprend aussi avec les assemblées générales comment ça fonctionne. J'oublie le nom, mais je pense que c'est protocole, mais...
Toutes les procédures.
C'est ouais. Ça, les procédures, exactement, on devient familier avec ça, puis aussi, moi, dans mon rôle, j'apprends à gérer avec l'administration. Donc, super formateur aussi. Puis là, Caro, je sais pas si tu veux parler aussi de ta propre expérience au sein de l'asso, ce que tu as trouvé, que tu as développé comme compétence.
Ben moi, j'ai trouvé ça vraiment formateur sur plusieurs plans. Tu sais, déjà là, le travail d'équipe, je me considérais quand même bonne en travail d'équipe, mais ça m'a ouvert les yeux sur certains aspects. Des fois, tu sais, tu as une vision de quelque chose, puis tu penses que ton équipe n'a pas la même. Puis moi, ça m'a vraiment formé de travail d'équipe beaucoup.
Vraiment.
C'est sûr. Y a aussi le point communication, tu veux pas, moi je suis en communication, fait tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était comme assez organisé puis qui voulait, tu sais, je vais dire à tendance perfectionniste des fois là, mais tu sais, de comme avoir encore plus de rigueur, puis ok là, tu sais, moi j'ai un message à donner puis je l'envoie à comme 200 personnes, faut que ce soit comme il faut que l'information soit là, faut pas que, tu sais, si je suis en train de dire qu'il y a telle conférence super importante mais que finalement, je me trompe dans date, tu sais, ça marche pas. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup, ça m'a permis de beaucoup développer. Puis ça m'a permis aussi de faire des liens aussi avec mon bac, veux, veux pas, parce que, tu sais, si tu vises les relations internationales comme but ultime, la communication, t'en as besoin, là, c'est sûr. Travail d'équipe aussi, tu sais, que tu travailles dans un ministère, que tu travailles peu importe, travail d'équipe, c'est super important aussi. Puis juste être capable aussi d'utiliser différents outils. T'sais, là, on est sur un balado, puis ça me permet de m'exprimer sur une plateforme différente que par courriel. Je suis capable d'écrire des courriels professionnels et tout. Ça, c'est un atout qui m'est demandé dans mon emploi que j'ai présentement. Fait que ça m'a beaucoup formé de ce niveau-là aussi. Puis cet aspect de rétrospection-là, faut le faire quand on fait notre rapport d'implication. Fait que ça te permet aussi de prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon mandat qui me permet qui me permet de faire un lien avec mon bac sans nécessairement être mon bac. Puis, je veux pas, le bac, il est très, très théorique. Fait que j'ai beaucoup aimé de pouvoir avoir une expérience professionnelle au sein de mon bac qui n'était pas nécessairement de l'économie, de la politique ou... Mais quoi que des fois, dans l'exemple, ça peut être de la politique quand tu négocies avec tes collègues. Mais non, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça puis ça m'a vraiment beaucoup formé à ce niveau-là.
Oui. Puis, tu sais, tu parles de reconnaissance de l'implication. C'est ça, on peut faire reconnaître toutes ces expériences-là desquelles j'ai parlé, la plupart pour 3 crédits, puis, mais il faut faire le rapport comme tu fais. Fait que vraiment, on peut se questionner nous-mêmes sur les compétences qu'on a eues, puis ensuite...
Ça va être une occasion de bilan, là, de faire le point. Là.
Puis aussi, en restant à l'asso, on parlait d'un peu de compétences de gestion de projet, mais c'est aussi une expérience, une opportunité de développer des compétences en gestion de personnel.
Oui, beaucoup.
Et je pense à Florence, qui est notre vice-présidente aux affaires internes. Elle gère 4 comités, puis elle doit nous rapporter leurs activités, puis c'est souvent leur donner des deadlines, super formateur aussi, puis Léonie, qui est notre présidente, nous gère nous, dans le fond. Puis comment, tu sais, balancer d'être amis, mais aussi de quand même que les choses doivent être faites, puis elles doivent être faites correctement. Donc, super formateur sur cet aspect-là aussi.
Non, vraiment. Ouais, je le recommande, là. Puis, justement, on est en processus de transition avec l'exec, puis c'est vraiment une super belle implication. Puis, souvent, ça fait peur. Tu sais, oui, faut que tu fasses la step de comme, OK, go, moi, je m'en vais. Je porte ma candidature. C'est pas tout le temps facile, tu sais. Moi, je le cacherai pas. Ça, tu sais, c'est comme quand tu travailles dans n'importe quel emploi. T'as des hauts, t'as des bas. Ça te challenge. Des fois, t'es comme, voyons, pourquoi je fais ça? Des fois, t'es comme, oh my god, c'est la job la plus cool au monde. Mais tu le fais, puis après ça, tu te dis que tu le fais pour une raison. Puis quand t'es capable de faire des liens avec ton bac, moi, je trouve ça encore plus génial. Puis c'est pour ça que je le recommande.
Mm-hmm.
100%. Sur ça, on va faire une courte pause. Puis, pour ceux qui nous écoutent, on vous réveille bientôt à priori sur les ondes de Schiste 94.3. Vous êtes de retour à priori sur les ondes de Schiste 94.3. Je suis toujours accompagnée de Chloé et de Annie qui nous parlent de à quoi ça sert le BIAPRIX. Avant la pause, on parlait plus par contre de démystifier le BIAPRIX, puis on faisait plus la promotion de c'est quoi le BIAPRIX, le fait que c'est un bac multidisciplinaire qui nous permet de développer plusieurs compétences professionnelles malgré le fait que c'est un bac très théorique parce qu'il y a plusieurs implications qui nous sont proposées puis ben parce que ça nous forme en tant qu'étudiant et étudiante, puis en tant que citoyen, si je peux le dire. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez ajouter avant qu'on passe à plus à quoi ça sert le BIAPRIX?
Oui, bien c'est ça. Bien, on parlait de compétences développées et tout, puis pour aller plus vers le professionnel, je sais que toi, Caro, t'es auxiliaire.
Oui.
Je me demandais comme, si tu trouves que c'est une expérience pertinente justement à développer.
Moi, en plus, auxiliaire, tu sais, je savais que ça existait parce que, tu sais, avant, il y avait Marcus qui était... ancien étudiant au bac, qui était auxiliaire pour le cours d'administration publique et politique publique, qui est le cours pour lequel je suis auxiliaire en ce moment. Puis j'avais aussi Charlotte, l'ancienne vice-présidente aux communications, qui, elle, était auxiliaire pour relations internationales et défis de la mondialisation. Là, il faut juste que je démystifie, il y a comme deux types d'auxiliaires. Tu as auxiliaire de premier cycle, qui est ce que moi je fais en ce moment, puis auxiliaire de deuxième cycle, qui est plus ceux qui vont faire la correction et la correction souvent. Moi, je suis auxiliaire de premier cycle, ça veut dire que je suis tutrice, là, on appelle ça de même. Puis ma responsabilité, c'est vraiment de répondre aux questions concernant la matière des étudiants. Fait que moi, ce que je fais, c'est que ça dépend de la formule que tu veux. Moi, je m'étais fait dire avant que c'était de répondre au forum, mais souvent, le prof va répondre au forum très, très tôt le matin. Moi, je ne suis pas une lève-tôt, donc souvent, j'arrive, je suis comme, oh, mais la réponse est déjà là. Fait que moi, ce que j'ai pris comme approche, c'est de, je me mets disponible, puis je prends des rendez-vous avec les étudiants. Parce que des fois, il y a des étudiants que ton professeur va t'enseigner de quoi, puis là, ils comprennent pas. Fait que là, ils sont comme, je comprends pas la matière. Puis toi, avec ton point de vue d'étudiant, t'es capable de leur enseigner la matière différemment. Fait que moi, je fais ça. Les compétences que ça me donne, c'est, ben c'est sûr que ça me permet d'approfondir mes connaissances, veux, veux pas, des cours que j'ai eus. Tu sais, administration publique, nous, en plus, c'est triste parce qu'on a perdu des cours pendant la grève l'an dernier. Ça me permet vraiment d'approfondir mes connaissances sur la matière. Puis, ça me permet aussi de développer des compétences, c'est sûr, d'enseignement aussi. Puis, moi, comment je vois ça, c'est que je trouve que c'est bien parce que, veux, veux pas, dans ton travail plus tard, c'est sûr qu'il y en a qui vont arriver après toi puis qui vont avoir besoin de conseils, puis d'aide. Fait que moi, je le vois vraiment pour ça me forme à aider les gens plus tard. T'sais, moi, ma job, c'est pas de leur enseigner puis leur dire s'ils étudient bien ou ils étudient mal. C'est vraiment d'être là puis de les accompagner. Fait que j'aime vraiment ça pour cet aspect-là. Puis, je veux pas, c'est sûr que c'est en lien direct avec mon programme. Là. C'est un cours qu'on a eu que j'ai pas le choix de. Ben, pas que j'ai pas le choix, mais que. Tu sais, que je travaille là-dedans. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis, aussi que c'est quand même flexible. Moi, tu sais, oui, j'ai un emploi, mais en ce moment, je coordonne mon emploi pour garder cette implication-là parce que ça me permet vraiment de me développer en tant que personne aussi de faire ce poste-là. Aussi, je viens de penser. Ce qui est possibilité d'avancement, c'est que là, en ce moment, je suis au bac. Si jamais je m'en vais à la maîtrise, puis là, ça fait deux sessions que je le fais. Le but, c'est de me garder pour que je puisse, après ça, transiter vers auxiliaire de deuxième cycle. Fait que ça, je trouve ça aussi que c'est une belle opportunité. Je sais pas si je vais me rendre là encore. T'sais, moi, j'essaie d'y aller au jour le jour. Mais ça aussi, j'étais comme, hey, c'est donc bien une belle opportunité d'avancement. T'sais, après ça, tout dépendant. C'est sûr que, t'sais, affaires publiques, pas affaires publiques, mais politique publique, c'est pas tant mon domaine dans lequel je veux aller vers la maîtrise, mais, t'sais, si je veux vraiment aller là, ben, t'sais, il y a possibilité d'avoir des directeurs de maîtrise et tout. Donc, auxiliaire d'enseignement, moi, je me suis fait approcher par courriel. Des fois, ils l'annoncent aussi, là, dans les courriels, justement, du SDP. S'il y a un poste d'auxiliaire qui vous tente, moi, je vous dis, faites-le. C'est pas demandant en tant que tel, mais c'est vraiment une belle implication. Là.
Puis, et c'est ça, on a parlé beaucoup des implications au sein des, ou dans les cours, tu sais, plus pédagogiques, mais je me demandais, Annie, tu as beaucoup à faire à des étudiants qui cherchent des stages, des trucs comme ça. Peux-tu nous parler d'autres trucs qu'on peut faire pour augmenter notre CV à l'extérieur de l'Uni?
Oui, en fait, je trouve ça intéressant. On est en train de mettre en lumière les implications à l'intérieur du campus, mais aussi à l'extérieur du campus. Il y a aussi d'autres avenues. Il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui vont choisir de travailler, occuper un emploi étudiant dans la fonction publique, que ce soit la fonction publique du Québec, fonction publique du Canada. Ça peut être dans la ville, dans une ville, pour une ville. Ça peut être pour une municipalité. Ça pourrait être pour une chambre de commerce, par exemple, aussi. Fait que c'est des exemples, tu sais, d'emplois comme ça. Il y a les fameux stages que vous connaissez. Ouais. Donc, la plupart d'entre vous connaissez beaucoup le programme PAGE. Il existe plein d'autres possibilités. Je vais vous en donner là, quelques exemples. En fait, il y a des étudiants qui peuvent faire des stages au niveau des ambassades.
Même au bac.
Oh. Oui. Puis d'ailleurs, souvent, les gens qui s'intéressent au secteur des ambassades, ben, ils disent, il n'y a pas d'offres affichées, tu sais, on ne les voit pas tout le temps. Ben, parce que ce secteur-là, que ce soit les ambassades, les consulats, les délégations, ça peut être aussi par approche aussi. Donc, okay. C'est pas parce que vous ne voyez pas d'offres qu'il n'y a pas de possibilité. C'est aussi à vous d'en créer puis d'aller vers les milieux. Tu sais, je prends exemple le consulat général de France à Québec, prennent des stagiaires. La délégation du Québec à Mexico aussi a déjà affiché, publié des offres de stage chez nous, prennent des stagiaires. Il y a des partis politiques, des organismes communautaires aussi, on ne pense pas, mais tu sais, à vocation pour sensibiliser, promouvoir tout le volet communication, mais aussi le volet affaires publiques aussi, donc qui peut être très intéressant dans le secteur communautaire. Là, on a parlé d'emploi étudiant, stage, implication sur le campus, mais il y a aussi du bénévolat, des engagements sociaux aussi qui peuvent vraiment être intéressants. Par exemple, siéger sur un conseil d'administration, quoi de mieux de comprendre la gouvernance, toute l'administration. Et juste avant le podcast, je suis allée faire un petit tour dans la section engagements sociaux qui est affichée sur notre site. Puis j'ai vu un beau poste qui s'appelait « Ambassadeur d'une campagne de lancement ». Donc là, vraiment encore là, l'opportunité de développer des compétences en communication. Quand je vous disais que sur des offres d'emploi, là, je lisais souvent être en mesure de créer, maintenir des relations là, avec les gens, ben, le poste d'ambassadeur, c'était beaucoup ça. Donc, c'est des exemples comme ça à saisir. Comment les saisir? Ben, évidemment, vous l'avez dit, là, sur le site du Service du développement professionnel, on publie des opportunités d'emploi, de stage, de bénévolat, mais c'est pas tout, tu sais, il y a différentes plateformes aussi de médias que vous pourriez consulter. Je pense entre autres à LinkedIn, justement dans le 5 à 7, en fait, du comité ambassadeur. Les gens qui étaient là, ils disaient, ben tout ce qui est ambassade, délégation, ben connectez-vous sur LinkedIn, vous allez voir passer les opportunités. Donc ça, c'est peut-être à retenir. Cela dit, il y a deux façons de trouver ces opportunités-là. Il y a l'affichage, donc l'occasion est publiée, tout le monde la voit, donc on peut la saisir. Mais il y a aussi vous prendre l'initiative d'aller offrir vos services et dire, hey, ben moi, ça m'intéresse, au risque de se faire dire non. mais au moins, il y a déjà un contact, une relation, puis c'est peut-être pas cette année, mais hey, reviens-moi dans la prochaine session, peut-être que oui.
C'est pas facile, là, LinkedIn. Moi, je l'ai fait. Il y avait deux entreprises qui m'intéressaient, je les ai écrites, puis c'était pas facile, mais ça l'a porté fruit, puis tu sais, au final, je travaille pas là, mais il y avait quand même des possibilités d'avancement et tout, puis ça m'a vraiment formé, mais c'est pas facile. Non, faut le faire, par contre.
Faut oser, ça prend de l'audace, du courage, effectivement. Mais faut le faire. Puis on le fait parce qu'on a envie de créer ce lien-là. Là.
Puis je pense c'est intéressant qu'on parle d'autres stages parce que c'est ça, on parle souvent du stage de page, puis c'est un stage incroyable, je le recommande, je l'ai fait moi-même. Je ne discrédite pas du tout le stage, il est incroyable. Mais le stage de page, il est directement inclus dans notre choix de cours. On le voit, c'est très facile de se dire « Ah, oh, j'ai accès ». Tandis que d'autres stages, mais c'est un peu juste la case stage lié ou emploi lié.
Emploi axé sur la carrière.
Ouais, oui, quelque chose comme ça.
C'est un onglet stage aussi.
Oui, il y a aussi un onglet stage. En tout cas, c'est un peu flou. C'est sûr, il faut aller creuser, il faut avoir une initiative, mais c'est pas parce que c'est pas le baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales coop qu'on peut pas faire des stages qui vont être crédités dans notre parcours. Puis c'est ça, même s'il manque le titre de coop, parfois je pense que c'est un peu méconnu le fait que c'est possible d'aller chercher d'autres stages. Et des faire créditer au Biafri.
Des emplois étudiants aussi.
Aussi. Il y en a beaucoup qui travaillent dans les ministères pendant l'année à temps partiel, pendant l'été à temps plein, ça peut tout aussi être crédité. Mais tu sais, on parle de délégation et tout, de que ce soit en dehors ou dans l'Uni, je pense que c'est important de quand on veut aller chercher des compétences, quand on veut faire des stages et d'autres expériences, c'est pas tant le où, mais le pourquoi qu'on le fait, que je pense qu'il est important de qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que je vais aller chercher comme compétence. Puis, par rapport à ça, moi, j'ai eu une discussion, avant même de choisir mon bac, j'ai eu une discussion avec une déléguée générale du Québec aux États-Unis. J'ai demandé un peu, parce que j'hésitais entre deux programmes, bref. Puis, je demandais, ah, mettons que je me présente VP première, VP à la représentation des premières années, ça paraît-il bien sur un CV, genre? Puis sa conclusion, c'était un peu... oui, mais si tu avais un intérêt pour le faire, c'est pourquoi tu l'as fait? Est-ce que c'était tu avais un intérêt pour ça?
Ça t'apporte quoi?
Ça t'apporte quoi? Oui, pas juste le fait de... ah, ben j'étais... tu sais, j'avais tel poste dans tel exec. Puis elle m'a aussi donné une comparaison pour elle entre quelqu'un qui appliquait pour travailler au sein de la délégation, qui avait, je sais pas, travaillé 3 ans dans une quincaillerie, puis à chaque année, montait un peu dans les stades, puis... développer des réelles compétences au sein de ces quincailleries-là, même si c'était pas relié aux relations internationales, contre quelqu'un qui peut-être avait servi des verres d'eau à l'ambassade de Norvège, hein. Ben, même s'il y a le nom ambassade de Norvège, quelles compétences est allé rechercher là? Je pense que c'est plus là qu'il faut se demander, puis il faut pas s'arrêter à juste chercher des opportunités dans les ambassades, des consulats, si c'est ça qu'on recherche plus tard, parce que ces compétences-là importantes, tu peux aller les chercher ailleurs, où est-ce que tu vas réellement... travailler puis aller chercher les compétences plutôt que seulement le nom à mettre sur le CV.
Tellement. Moi, je renchérirais en disant là, que c'est le sens que tu donnes à ton expérience. Puis quand tu parles de ton expérience, c'est pas juste... Tu fais pas sentir à l'autre que tu l'as fait juste pour cocher une case. Tu l'as fait parce que tu avais envie de retirer quelque chose puis tu avais envie de développer soit des compétences. Puis il y a certaines expériences qu'on choisit de faire... même s'ils sont loin du secteur que je convoite, parce que je sais que je vais développer des compétences qui sont en lien, qui potentiellement pourraient être intéressantes dans mon secteur convoité, ou d'un autre côté, on peut occuper un emploi qui, le mandat, les tâches, bof, ça fait en ce moment, mais je ne ferai pas ça toute ma vie, mais à cause de ça, ça me permet de découvrir un secteur, un milieu qui m'intéresse, puis valider, voir si je suis dans la bonne voie. Fait que, jumelé aux rencontres qu'on fait à travers ces implications-là, puis tout au long de votre parcours académique, puis ces expériences-là peuvent permettre de clarifier les choses puis de donner une direction à un parcours professionnel.
Mais parlant de clarifier, justement, quand j'ai vécu une anecdote dans le fond. C'est, voilà un an à peu près, là, je commençais le bac. Là. Je pense que c'était au mois d'octobre. Là. Je commençais, puis j'avais aucune idée c'était quoi le bac encore. Là, puis j'ai juste dit à un moment donné, je parlais dans mon ancien emploi, puis il dit à une personne, puis la personne, elle me dit, t'étudies en quoi? Je dis, affaires publiques et relations internationales. Il dit, ah, OK. Puis là, il a comme eu des petites étoiles dans les yeux. Je me retourne à ma tâche. La personne, elle rentre comme 5 minutes après, elle dit, fallait que je te revoie. Je suis comme, OK. Il me donne sa carte, puis il me dit, Écoute, il dit, moi, je travaille dans tel domaine. Ça se rapprochait beaucoup au Biaprix, mais c'était pas le Biaprix. Il dit, si tu veux un stage, appelle-moi. J'ai dit, hey, mais monsieur, wow. Je commence mon bac, là, je sais vraiment pas ce que je veux faire. Il dit, parfait, c'est le meilleur moment. Parce qu'il dit, on va t'engager comme stagiaire, tu peux faire 5 heures si tu veux, puis si t'aimes pas ça, ben c'est pas plus grave que ça, tu iras ailleurs après. Puis ça m'avait vraiment ouvert les yeux de comme, OK, il faut qu'on fasse le choix, puis il faut qu'on prenne, tu sais, la décision de OK, je le fais, c'est pas facile, comme je dis, mais ça m'a marqué, là, encore aujourd'hui, ça, tu sais, là, j'ai une décision, ben, une direction plus claire, là, où est-ce que je veux m'en aller. Mais je me rappelle, là, je rentrais au bac, je pense que ça faisait même pas 2 semaines que je commençais, puis, tiens, un stage, hein, mais monsieur, je sais même pas si j'ai les compétences. Il dit, mais il faut justement que tu les développes. Puis, dis-moi, c'est grâce à ça que je suis rendue où ce que je suis. Fait que si je peux faire ça pour toi, moi, ma job est faite. J'étais comme, hein.
Wow.
Ouais.
Mais je trouve ça intéressant si tu dis, si je peux faire ça pour toi, ma job est faite. Parce que moi, dans mon parcours Biafri, j'ai rencontré plusieurs personnes qui donnent leur temps, puis ils font juste pour la prochaine génération, ouais. Je dirais. Puis, c'est faut aller chercher cette opportunité-là. Faut pas avoir peur de se faire dire non, parce que souvent, les gens sont prêts à donner. Parce que quand ils étaient à notre position, il y a des gens qui ont donné pour eux. Puis, si on est capable d'aller chercher cette opportunité-là, les gens sont bienveillants, puis ils veulent nous permettre de développer notre carrière. Puis, ensuite, on va le faire, tu sais, quand le temps viendra pour nous.
Là, on parle de prendre des opportunités et tout. Souvent, on se fait dire au Biaprix, il faut planifier son cheminement professionnel. Est-ce que ça veut juste dire, je prends les cours selon ce que je veux faire plus tard? Ou, tu sais, comment qu'on planifie son cheminement? Puis aussi, comment on le planifie si, comme moi, quand j'étais au début du bac, t'as pas d'idée vers où t'en aller? Y'a-tu pas des stratégies, mais comme des moyens de le faire, même si on n'a pas d'idée précise?
Par rapport à, ben, il y a comme deux axes là, à ta question. Là. Il y a planifier son cheminement, puis planifier son cheminement personnel, professionnel, je le vois comme ça. Fait que planifier son cheminement académique, ben, c'est la gestion des études, tu sais, qui est vraiment votre ressource. Puis après ça, l'avantage de, quand on dit planifier un parcours personnel et professionnel, je trouve que c'est comme si vous alliez mettre un petit peu de couleur à votre parcours. Tu sais, là, il y a des cours à suivre. Maintenant, OK, comment je peux profiter au maximum de mes 3 années de bac puis le mettre à profit, au profit de mon développement personnel et professionnel? Donc ça, pour faire ça, ben moi, c'est sûr que je vous encourage à venir me rencontrer. La meilleure période pour venir rencontrer un conseiller en emploi, là, je pense que c'est votre deuxième session à votre première année, deuxième session. Là, première session, laissez-vous le temps d'arriver, d'intégrer le tout ça, d'assimiler le fonctionnement. Mais après ça, s'asseoir. Parce que si vous projetez faire un stage, si vous projetez partir une session à l'international, projetez faire tel type de cours, il faut quand même, tu sais, le planifier. Pour faire un stage, ça prend minimalement un 24 crédits. Fait que, comme ça, vous pouvez dresser une ligne du temps. Puis mettre vos sessions, puis dire, oh, ben moi, je vais faire un stage à prochain été. Donc là, comme ça, ça vous permet de planifier, puis donner de la légèreté aussi, dire, ah, oh, avoir su, oh, j'aurais dû en le faire. Non, OK, là, c'est déjà là, les affichages. Fait qu'il y a ça. Puis cet espace-là que vous allez vous donner grâce à votre planification, ben je pense que ça va vous donner aussi peut-être de l'élan de participer à des activités de réseautage aussi, puis avoir le goût de ne pas vous mettre en mode performance, mais plutôt en mode j'explore, je sais pas trop, je suis là, j'explore, tu sais.
Puis justement, quand moi et Annie, on avait discuté de cet enjeu-là, on se disait, il faut, on se dit, tu sais, oui, il faut planifier, et je sais pas ce que je veux faire, mais si on de prendre le temps justement de rencontrer quelqu'un comme Annie, puis de se poser des questions, prendre cette réflexion-là pour dire, peut-être pas nécessairement quel type d'emploi je cherche, puis précisément, mais vers quelle lignée je vais m'en aller. Puis une fois qu'on a une lignée, parce que c'est ça qui est insécurisant au Biaprix, c'est qu'on n'a pas de lignée claire, mais on se compare aux étudiants, étudiantes en droit. Après le droit, t'es avocat ou notaire, c'est assez simple. T'as pas tant le temps de te questionner. Bien, oui, tu peux faire d'autres choses, évidemment. Mais au Biaprix, c'est carrément, tu peux presque faire n'importe quoi. Puis des fois, on se dit, bien, écrit, mais est-ce que je peux rien faire? Est-ce que je peux faire n'importe quoi? Mais de juste se donner cette petite lignée-là, puis on peut y déroger. Mais ensuite, on se dit, OK, ben je veux m'en aller vers ça. Tu sais, moi, je pense que je vais aller en relation internationale. J'ai remarqué, dans les 5 à 7, j'ai la misère un peu à aller voir le monde puis de tu sais, me vendre et tout. Ça, c'est une capacité, une compétence que je sais qu'il faut que je développe. Ben tu sais, je connais ma niche. Maintenant, je connais les compétences que je veux développer en lien avec ça. Puis déjà, ça peut enlever un peu de ce flou-là. Là, je me dis, il est trop tard dans mon bac, justement. J'aurais peut-être dû avoir cette réflexion-là plus tôt. Mais avoir su, tu sais, je les aurais faites des missions commerciales parce que c'est challenger de faire les cold calls, puis tu sais, aller chercher les compétences que je veux pour faire ce que je veux. Je pense que c'est ça important d'aller rencontrer Annie, d'aller rencontrer les SDP pour se faire cette réflexion-là. Puis parce que moi, en tant que pédago, souvent, je vais dire aux étudiants et étudiantes, allez voir Christina, qui est notre agente à la gestion des études, pour planifier votre cheminement, vous assurer que tous vos cours rentrent ensemble, s'imbriquent. Ça, c'est vraiment parfait. Il faut le faire parce qu'on veut graduer dans les temps qu'on souhaite. Là. Mais aussi, allez voir Annie. Puis après le bac, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout aussi important, je pense.
Puis les avantages de venir tôt, c'est des fois, si on arrive en troisième année de bac ou à la deuxième année parce qu'on se questionne, je fais-tu la maîtrise ou pas, tout ça, ça peut causer un certain stress aussi. Fait que le fait de le faire en amont, bien, ça vous permet de se donner du temps d'explorer, tu sais, de découvrir c'est quoi le marché. Puis ça, à cette... Ah, t'allais dire quelque chose,
vas-y. Je pense que tu vas dans le mille avec ce que les étudiants et étudiantes au Biafris se font dire. Est-ce qu'il faut la maîtrise? La question qui tue, on a-t-il besoin d'une
cette
maîtrise
fameuse question.
Ou on peut faire quelque chose directement après?
À cette fameuse question, je vais répondre platement, ça dépend.
Ça dépend.
Mais écoute, ça dépend. Ça dépend du projet que tu convoites. Puis c'est là toute l'essence de venir en parler, de rencontrer des gens, discuter de ses idées, aller valider l'information, de regarder quand vous consultez des offres d'emploi, de ne pas attendre d'être en mode recherche d'emploi pour regarder les offres qui sont offertes aux diplômés pour voir, OK, c'est quoi les profils exigés? Et l'exiges-tu la fameuse maîtrise pour devenir conseiller, conseillère aux affaires internationales, à la fonction publique du Québec, tu sais. Fait que ça, vous avez accès à cette information-là assez rapidement. Fait que de ne pas hésiter, tu sais, d'être curieux, curieuse, de planifier ce volet-là. Puis aussi, il y a un outil qui est vraiment génial sur notre site qui s'appelle le portrait du marché. Là, c'est un travail que je fais pour recenser quels sont les grands secteurs, où est-ce qu'on retrouve les Biapris, qui sont les employeurs, à quoi ça ressemble des titres de poste, parce que souvent, on cherche du concret. T'sais. Fait que ça, ce dossier-là et cette ressource-là est sur le site du Service du développement professionnel, le portrait du marché. Puis évidemment, venir me rencontrer pour échanger, parler un peu de vos idées.
Puis, des fois, quand on a beau répéter « allez voir Annie », mais de dire aussi ça, parce que tu as accès à plein de ressources. Puis moi,
exact.
Ce qui m'a surpris, c'est que tu as des archives de toutes les offres d'emploi pertinentes au Biafris, parce qu'on se fait dire « regardez les offres d'emploi », mais si au moment que tu regardes, il n'y a pas une offre pour le poste que tu cherches, on peut aller voir Annie, elle a toutes les archives, aussi avec les descriptions de poste, parce que moi, je veux être diplomate. Là, c'est sûr, c'est un peu vague, mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Souvent, on ne le sait pas. Puis de voir un affichage pour le poste qu'on convoite, de voir les listes de tâches qui ne sont pas juste assister à des meetings puis envoyer des courriels, ça peut être super. Ça peut être clarifiant. Puis aussi, justement, c'est quoi que ça prend pour s'y rendre?
Clairement. Puis une des ressources qu'on a, tu m'as fait penser, le répertoire d'employeurs qui se retrouve aussi sur notre site. Puis là, vous êtes en mesure de voir, en fait, ce qui est le fun, c'est que le système va reconnaître dans quel programme d'études vous êtes.
Okay.
Puis il va générer une liste d'employeurs pour lesquels les employeurs ont déjà soit antérieurement ou actuellement affiché des offres dans votre domaine. Fait que ça, c'est intéressant. Puis on parlait de diplomate, on peut parler, tu sais, le fameux titre de poste de conseiller, conseillère ou chargé de projet, bien, ça fait quoi, ça, tu sais? Les chargés de projet, bien, il n'y a pas une entreprise qui a la même définition, les mêmes exigences. Fait que, tu sais, c'est pour ça, d'où l'importance d'aller un peu explorer, là.
Moi, je suis curieuse, là, les employeurs, mettons, là, c'est ceux qui ressortent le plus, là, c'est quoi? T'as-tu des exemples ou...
Oui, bien, en fait, moi, une des bonnes façons, parce que quand on affiche des emplois, les employeurs ne nous disent pas toujours qui ont recruté. Fait que je n'ai pas la liste de qui a recruté. Mais au niveau des stages, je suis capable de voir, tu sais, un peu le profil des employeurs. Puis, évidemment, ce qui ressort, le secteur numéro un, c'est la fonction publique, autant provinciale que fédérale. Après ça, bien, tout ce qui est organisme de coopération et de développement international. Il y a ce volet-là. Okay. Là, après ça, ben là, ça va dépendre de l'angle qu'on veut prendre puis de nos champs d'intérêt parce que, bon, moi, les diplômés que j'ai connus, il y en a qui sont présentement en communication. Fait qu'ils ont pris cette voie-là. Tu sais, à la question « Je dois-tu faire une maîtrise? » Bien, certains n'ont pas nécessairement été chercher une maîtrise en communication, mais sont allés chercher soit un DESS ou aller chercher un certificat. D'autres ont pris la voie peut-être plus à administration. Beaucoup prennent la voie affaires publiques, sciences politiques. Fait que, encore là, ça dépend toujours en fonction de ce que vous visez. Si je veux être analyste subalterne au fédéral, ben la possibilité de faire une maîtrise en affaires publiques, en études internationales ou en sciences politiques peut donner accès, tu sais. Puis ça, il y a des belles maîtrises avec stage aussi, fait que je vous encourage aussi à explorer ces aspects-là, là.
Puis aussi, Annie, tu parlais du portrait de marché, justement, je pense que c'était comme une liste complète, oui. Pour pas les énumérer ici, mais on va mettre, évidemment, cette ressource-là qui est super pertinente, il y a quand même une liste complète d'employeurs auxquels on pense pas. Puis aussi, tu parles de fonction publique fédérale, provinciale, c'est souvent ce qu'on vise, puis ce qui m'a marqué quand on a discuté, c'est la différence entre les deux, puis la différence entre ce qui est recherché, comment ça fonctionne. Souvent, le fédéral, ça fonctionne encore par concours avec des exigences un peu classiques de maîtrise, ça te l'apprend. Provincial, tu sais, il n'y a plus de concours, ça commence à être un peu plus, ben je dirais pas lousse, mais je serais curieuse de t'entendre.
Ben, c'est plus une formule, on a des besoins, on publie, on affiche une offre, tandis que le fédéral a encore son programme de recrutement postsecondaire.
Ben, si je peux parler, moi, présentement, je viens d'être engagée dans un ministère en relations intergouvernementales puis intégration du territoire. Fait que moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est mes trois domaines
combinés
ensemble dans un poste. Puis moi, ça me faisait peur, la fonction publique. Puis justement, au balado, mon premier épisode que j'ai enregistré, c'était avec Anne-Marie Paré qui, elle, travaille dans la fonction publique au fédéral. Puis elle était venue pour nous démystifier vraiment comment qu'on aborde ça en étant étudiant. Fait que moi, j'étais comme, hey, OK, c'était donc bien des bons conseils. Puis ça me faisait quand même encore peur, là, si je ne vais pas le cacher. Mais une personne que je connaissais proche de moi m'a dit, écoute, prépare ta lettre de motivation, prépare ton CV, j'ai une job pour toi, postule. Puis, c'est comme j'ai dit, ça fait peur, mais c'est plus accessible qu'on le pense. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, hey, une job en relation intergouvernementale, j'étais à ma deuxième année de bac. Je trouve ça tellement le fun parce que c'est encore tôt dans mon cheminement, tu sais. Fait que ça me permet justement de me faire une idée sur qu'est-ce que je veux faire après, plus précisément. Là.
Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, si l'action de poser sa candidature ou préparer ses dossiers fait peur, bien, encore là, je réitère les ressources qui sont là qui appuient cette démarche-là. Là.
Oui, parce qu'on dit souvent, mais au SDP, on peut faire des pratiques d'entrevue, on peut aller te voir pour pour faire notre CV, justement, faire nos lettres de motivation, etc. Puis, moi, j'aimerais ça quand même revenir à l'aspect, je sais pas, un peu plus philosophique, réflexion, tu sais, parce que une fois qu'on... Ben même si on... Parce que 3 ans de bac, c'est pas beaucoup.
Là. Non.
Puis c'est sûr qu'il faut commencer à planifier tôt. Des fois, ça fait peur. Puis moi, je suis une grande fan de lin sabbatique. J'en ai pris une après mon cégep. Puis pour vrai, si je l'avais pas pris, je pense que je serais allée en traduction, genre, ou comme... En fait, j'étais en sciences nat au cégep, donc ça n'a vraiment pas rapport. Cette année-là m'a vraiment permis de me poser. Justement, je suis partie un peu à l'international. J'ai travaillé un peu partout. Puis de là, j'ai découvert les relations internationales. Puis quand t'es pas autant... t'as la tête à tes travaux, à tout plein de choses, t'as plus le temps de faire une réflexion introspective de qu'est-ce que je veux réellement. Puis ça se prend aussi entre le bac et la maîtrise. Si t'es pas certain de vouloir faire une maîtrise, puis une maîtrise en quoi aussi? Est-ce que je veux me spécifier dans un domaine, un certain domaine, où je veux garder ça large? Parce que je pense notamment à l'École supérieure d'études internationales à l'Université de Laval, le SEI, a plusieurs maîtrises, doctorats en relations internationales, puis c'est souvent très large. C'est une des choses qui mettent beaucoup de l'avant, que c'est multidisciplinaire. Tu dis, veux-tu être encore plus multidisciplinaire? Est-ce que je vais aller me chercher un MBA? Est-ce que... C'est beaucoup à penser pendant ta troisième année. T'es encore en train de faire tes travaux de session. Puis là, crime, faut que j'applique à la maîtrise. Moi, je pense que je vais le prendre même. Je me fais enregistrer, on verra si je le fais vraiment. Mais je pense vraiment prendre ce temps-là entre le bac et la maîtrise pour justement, non seulement prendre le temps de réflexion, mais aussi aller chercher des compétences. Comme... Puis... des voyages, là, même si ça peut sonner, un peu...
Laisser parties... aller un peu les fois.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a manière, je pense, de mettre de l'avant les compétences que tu vas chercher avec un voyage solo. J'ai développé de l'autonomie, de la débrouillardise. Si tu vas à l'étranger et tu te quêtes des jobs, c'est des compétences que tu vas chercher. C'est peut-être pas au gouvernement du Québec. Puis c'est sûr que c'est bon de commencer dans ces emplois-là pour avoir un pied dans la porte d'entrée. Mais ailleurs, je pense vraiment qu'il y a un avantage à prendre ce temps-là de réflexion. Puis, c'est ça, que ça soit même pas nécessairement pour voyager, là, mais on a longtemps dans la vie pour travailler. Puis, je pense pas qu'il y a de presse. Puis, je suis vraiment la plus grande fan, je pense, des années sabbatiques. Puis, je pense que c'est bon à y penser quand on a cette réflexion-là sur notre avenir.
Je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup ressorti là, dans l'épisode qu'on enregistre, c'est prendre le temps. Il y a trois disciplines. tu prends le temps d'analyser, puis de respirer, puis c'est pas la fin du monde, même si tu as beaucoup d'options qui s'offrent à toi. Tu prends le temps de planifier tes affaires, tu prends le temps d'aller chercher des compétences. Je pense que c'est vraiment ça comme la leçon qu'on a à tirer du balado. Mais en concluant, est-ce que vous avez des choses que vous voulez, mais un message ou que vous voulez dire à ceux qui nous écoutent?
Moi, si je peux commencer mon dernier message, ça serait un peu de relativiser. Parce que comme je disais, le bac, c'est pas tout. Puis on peut commencer, surtout dans notre domaine, tu sais, c'est peut-être pas comme un baccalauréat en médecine où est-ce que tu sais que c'est en moins médecine. On peut aller n'importe où avec ça. Puis si tu commences, tu sais, je pensais à une soirée avec les anciens, que quelqu'un, une ancienne du Biapri avait fait une maîtrise en droit international. Finalement, elle était rendue au ministère de la Culture en train de mais, en tout cas, je ne vais pas expliquer tout son cheminement, mais on peut vraiment passer d'un point A à un point B, à un point Z, à un point F, moins 2. Genre, tu pars de quelque part, puis tu finis ailleurs. Puis je pense que c'est la beauté de notre programme. Puis faut accepter ça, puis faut pas y aller avec crainte. Puis relativiser un peu que ton bac, c'est pas toute ta vie. Puis tu peux ensuite aller ailleurs.
Moi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser un peu à ce que j'ai déjà entendu. Un plan de match est bon tant que le match n'est pas commencé. Donc... C'est ça, prendre ce temps de recul-là. Puis moi, mon message, ça serait vraiment d'accepter qu'il y a certains aspects qui puissent rester flous. Puis quand on est dans cette posture-là, tenter d'identifier les moyens qui permettraient graduellement d'apporter de la clarté. Fait que je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'on a su vous partager différentes pistes, différentes ressources. Fait que sachez en bénéficier puis en profiter. Fait que je sais que les coordonnées du service de développement professionnel vont être présents là, sur la promotion du podcast. Fait qu'hésitez pas là, à saisir la chance.
Pour avoir vu le portrait de marché, c'est un vrai bijou. Là. Je vous recommanderais vraiment à aller voir sur le site. Parce que là, peut-être que dans le podcast, on n'a pas nommé concrètement tous les postes, tous les employeurs, mais c'est vraiment ces ressources-là sont vraiment disponibles. On voulait juste surtout activer cette réflexion-là.
Merci beaucoup. Chloé et Annie, de votre présence sur le podcast, j'ai grandement apprécié. Et pour ceux qui nous écoutent, on se dit à bientôt à A priori sur les ondes de Chiz 94.3.